Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans ma transition professionnelle, enfin ça fait 4 ans que la boîte existe et ça fait quelques mois seulement que je suis à temps plein dedans et que j'exerce plus du tout la radiologie. J'ai dû être accompagnée justement dans cette transition par une personne qui m'a aidée dans mon développement personnel pour accepter la déconstruction sociale, accepter d'avoir des diplômes qui ne servent à rien, accepter de gagner littéralement 10 fois moins d'argent.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
Je me concentre. Ou alors il faut au contraire que je me concentre pas.
Tu disais que t'étais stressée. Je te vois, là, déjà, t'es en train de toucher au truc et tout.
Tu sais, moi, je suis une bonne élève, je suis stressée de bien faire. Mais comme là, il n'y a pas vraiment de gold standard sur le bien faire, j'ai pas de repère, donc je suis losée, donc oui.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ton rapport à l'argent, tu sais.
Non, j'imagine. Disons, si la bonne est probablement celle qui est juste, pour moi. Pas que je te bullshit, quoi.
Elle va évoluer avec le temps et tout, quoi. On est avec Victoire, donc salut Victoire.
Salut Fab.
Ça va ?
Écoute, ouais, je te dirai ça dans une heure quand on a fini.
Mais pourquoi t'es tendue comme ça ?
Je suis tendue parce que c'est une première pour ton podcast. Je suis dans une situation professionnelle dans laquelle parler d'argent... Attends, je reprends ça parce que c'est pas possible. Je suis désolée, il faut que je... Excuse-moi, Je n'ai aucune idée d'à quelle sauce tu vois tu vas me manger.
Pourtant on a parlé de cette discussion, tu vois.
Ouais.
En fait, je te pose cette question et j'insiste parce que je crois que ça en dit long aussi sur notre rapport à l'argent, le fait que tu sois tendu là, parce que je crois que si je venais te parler de ta boîte, t'aurais pas de problème.
Je suis tendu parce que j'ai la maîtrise de ce que je peux penser, raconter. Mais particulièrement quand il s'agit d'argent, les pensées des autres et les dires des autres ne sont pas la réalité de ceux et celles qui écoutent. Et du coup, je pense que j'ai très peur de l'image que cette conversation peut renvoyer de moi, tout en sachant que bah, y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est aussi très exploratoire comme format, puisque la question de l'argent a été présente dans ma vie à un peu chaque étape, particulièrement professionnellement, puisque j'ai changé de vie professionnelle assez récemment, et donc avec un vrai shift dans mon pouvoir d'achat et dans mon rapport à l'argent.
On va en parler.
Et j'imagine que c'est pour ça que je suis ici. mais le fait est que j'ai beaucoup réfléchi à cette question, et que pour moi, il n'y a pas... je vais pas te sortir mon guidelines de voilà mon rapport à l'argent, voilà ce que j'envisage dans la vie, voilà là où j'ai envie d'aller... j'en sais rien. Donc, comme je suis quelqu'un de plutôt assez carré, assez cartésien, c'est difficile pour moi de me laisser aller à cet exercice qui me semble totalement flou, presque artistique, alors que habituellement c'est une conversation qui rentre dans les choses carrées, tu vois. Voilà, c'est hyper abstrait, mais...
Non, c'est très clair, au contraire. C'est que c'est un sujet avec lequel t'as du mal à... Déjà communiqué, peut-être. Donc déjà, merci beaucoup de venir, de venir te prêter au jeu. Je sais pas si c'est un jeu pour toi d'ailleurs, mais et aussi, je trouve que ça en dit long sur notre rapport en France, hein, parce que je crois qu'aussi il y a un truc très français, peut-être très francophone, j'en sais rien, j'ai pas encore creusé assez bien le sujet sur le rapport à l'argent, mais de venir dire, en fait, je ne sais pas ce que cette discussion va donner comme image de moi. Et bah oui, comme tu dis, en fait, il y a autant de bonnes réponses qu'il va y avoir d'auditeurs et d'auditrices derrière. Donc, en fait, merci beaucoup de venir. Moi, je voulais t'avoir dans ce podcast parce que tu l'as expliqué très rapidement, mais tu as eu un shift professionnel où tu viens d'une situation personnelle et professionnelle qui était un peu tracée sur une route parce qu'en fait, tu as fait des études de médecine.
Donc, j'ai fait effectivement 11 années d'études de médecine. Je suis radiologue diplômée. J'ai exercé après une année d'assistanat en libéral, donc pendant 2 ans, en temps partiel. Et c'est ensuite que j'ai fait ma transition professionnelle. J'ai adoré ces études, beaucoup aimé ce métier dans une certaine partie de son exercice, particulièrement à l'hôpital où les conditions de rémunération ne sont pas du tout celles du libéral et où voilà, je faisais une discipline qui avait plutôt trait à la chirurgie, qui était extrêmement exigeante. Et dès lors que j'ai mis un pied dans l'exercice libéral très routinier du radiodiagnostic, c'est là où vraiment j'ai commencé à être à me rendre compte que ce métier ne m'épanouissait pas du tout. Il se trouve que donc le burn-out était un petit peu avant le fait que je shift. Ça s'est passé 2 ans avant et était lié aux conditions de travail à l'hôpital et pas, si tu veux, à un mal-être dans la profession au sens large. Et la raison pour laquelle j'ai changé de métier, c'était plutôt par passion et par engouement pour ce second métier que pour fuir une première situation.
Okay.
Oui, alors pour en revenir vraiment aux chiffres sur la première... ma première vie professionnelle, j'ai eu un rapport très mouvant, enfin plutôt un salaire qui a énormément varié, puisque j'ai quand même passé les 11 premières années, disons plus justement les 7 premières années de ma vie avant de pouvoir remplacer à gagner des clopes par rapport à ce que je travaillais, comme n'importe quel étudiant en médecine. Donc des salaires qui sont vraiment au lance-pierre, des heures qu'on ne compte pas, des gardes, etc. Donc je gagnais à peu près jusqu'à ma deuxième année d'internat entre 1500 et 1900 euros par mois pour bosser, voilà, à peu près 80 heures par semaine.
Tu parles en net, c'est ça?
Ouais.
Okay.
Donc ça, quelle que soit la ville d'exercice, hein, moi j'étais à Paris et voilà, autant dire que c'est assez compliqué parce que pour avoir un part-time job à côté, c'est pas possible. Ensuite, j'ai commencé donc à faire des remplacements en parallèle de mes études. Là, c'est un petit peu la poule aux œufs d'or, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, mais du jour au lendemain, bah, tu peux rentrer facilement 800, 1000, 1500 euros par jour de remplacement. Donc évidemment, là-dessus, tu payes des charges, l'URSSAF, etc. Mais à la fin de la journée, il te reste quand même un bon petit paquet dans la poche. Et puis ensuite...
à peu près la moitié, on va dire, hein, en
oui,
général.
Oui, c'est ça. Mmh. Ouais. Et c'est là d'ailleurs où toutes les spécialités ne sont pas égales. Et la radiologie est une spécialité qui est connue pour avoir... Enfin, qui a une réputation d'être très lucrative, en fait. C'est ce qui est vrai. Et donc, souvent, on considère que les radiologues ne font pas forcément ça par amour de l'humain et par vocation, mais plutôt par... par envie d'accumuler de l'argent. Ça aussi, c'est hyper intéressant parce que je pense que les deux sont pas incompatibles et particulièrement la médecine française, il y a un rapport très sacerdotal à l'exercice et il y a un petit peu cette honte de vouloir bien gagner sa vie quand on est censé la dédier aux autres. Enfin, tu vois, ça c'est aussi assez ambivalent, mais c'est bon. Une autre discussion. Et donc
je sais
ensuite,
pas si c'est notre discussion, on y reviendra.
L'exercice libéral, effectivement, en tant que tel, c'est bien plus conséquent. Au maximum de mon activité, donc où j'étais remplaçante, j'étais même pas titulaire, j'étais pas associée dans un cabinet, j'effectuais le travail de 2 médecins dans un endroit qui était dépeuplé d'un point de vue médical, donc sur 2 machines, donc je bossais moi-même comme une machine et je gagnais à peu près 2000 euros par jour net, donc en une semaine, donc 5 jours ouvrés, le tout en étant payé pour mon déplacement, mon logement, la voiture, etc. Je gagnais suffisamment à l'époque pour ne bosser qu'une semaine par mois en tant que radiologue, et 3 semaines par mois sur mon projet, puisque, comme tu l'as dit, les 2 premières années, on ne se payait pas du tout. Et c'est une boîte que j'ai montée avec mon frère, qui aujourd'hui est stable et rentable et à l'équilibre, ce que tu veux. J'imagine qu'on développera après aussi là-dessus. Même, dans lequel j'ai pas du tout le même rapport à l'argent et les mêmes rentrées, évidemment, d'argent.
Bien sûr, parce que la passion.
Parce que la passion. Mais donc, si jamais, entre autres la passion, mais si jamais j'avais poursuivi dans cette voie, effectivement, les salaires peuvent aller entre 20 et 40 000 euros par mois. Encore une fois, avec... quand même des guillemets à placer, à savoir voilà, une IRM ça coûte 1 million d'euros, ouvrir un cabinet en particulier dans un endroit comme Paris ça coûte aussi une tête, donc il y a des emprunts colossaux, il y a, enfin, donc c'est pas 40 000 euros in fine dans ta poche, mais il n'empêche que, enfin, je veux dire, c'est quand même c'est colossal par rapport à ce que gagne 99,9% du reste de la population dans le monde et 99% en France.
Ouais. On va reparler de tout ça, mais merci pour ce résumé, ça plante bien le décor, je trouve. La première question que je voudrais poser à tous mes invités dans Histoire d'argent, c'est, si je te dis le mot argent, c'est quoi les premiers trucs qui te viennent à l'esprit ?
Le premier mot, c'est sécurité, c'est certain. Le deuxième, c'est... J'hésite entre gratitude et redevance.
redevance.
Pour moi, l'argent n'est pas un dû, n'est pas quelque chose. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui se gagne et qui se mérite. En revanche, j'adore le revers de générosité qui peut être associé, voilà, au fait d'avoir de l'argent, que ce soit, enfin, donner de son temps ou donner littéralement de la monnaie. Donc voilà, la redevance, c'est aussi être redevable, tu vois, aux gens qui m'ont fait confiance à un moment donné, qui m'ont permis de gagner cet argent, à ma famille qui m'a permis de grandir dans un contexte sécurisant et de pouvoir faire des études, m'épanouir et à mon tour, m'enrichir de sorte que je puisse secondairement, tu vois, il y a une forme de rétribution. Le troisième mot... Ça, c'est complètement, ça va te paraître complètement out of the blue, mais je dirais que c'est patriarcat. En fait, j'ai réalisé quelque chose, finalement j'ai appris à savoir ce que c'était que l'argent, savoir gérer l'argent et comprendre les codes très masculins finalement associés à l'argent et à sa gestion, à partir du moment où j'en ai moins eu, voire très peu eu, et où j'ai dû réfléchir à comment j'allais sécuriser mes billes pour l'avenir, parce que si je décide de ne plus jamais exercer la médecine, a priori c'est dans cette voie, c'est cette décision que j'ai entérinée, comment est-ce que je me sécurise justement, et comment est-ce que secondairement je m'épanouis et je m'enrichis pour pouvoir, être moi-même dans cet élan de générosité. Et en fait, j'ai découvert que tout ce qui était autour de l'argent, l'univers de l'argent était intimement associé au code traditionnel de la masculinité. Évidemment, le monde de la finance, mais aussi dès que tu t'intéresses à où investir, et quelle que soit la discipline, hein, que tu parles de crypto-monnaie, que tu parles d'art, que tu parles d'assurance vie, c'est à chaque fois un univers extrêmement masculin. Très blanc aussi, des gens qui ont en l'occurrence l'âge d'être mon daron ou mon grand daron, et ça nécessite, quand t'es une nana, de te faire à ses codes, en fait, et de t'approprier une culture que, en tout cas moi, naïvement jusqu'ici, je n'avais absolument pas.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information,
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et tu veux dire que quand t'es une meuf, donc t'as 33, quand t'es une meuf de 33 ans et t'arrives dans ce truc-là, est-ce qu'on te regarde de travers aussi parce qu'on se dit, ok, la petite...
Je crois que c'est plutôt mon regard de moi à moi-même. Okay. C'est moi qui me suis prise au sérieux. Et c'est étonnant parce que je me rends compte que je m'autorise des choses que je ne m'autorisais pas dans ma profession précédente, à savoir en tant que médecin. Je m'étais jamais vue comme une businesswoman. Je m'étais jamais dit « je vais investir dans un cabinet, j'ai la possibilité de prendre ce pouvoir ». Je peux négocier mon salaire, je peux... tu vois, enfin, alors qu'en fait, oui, comme dans n'importe quel métier et... en médecine, pas du tout, au final. Et t'as particulièrement, justement, dans cette dimension de compagnonnage, t'as une hiérarchie très forte et t'as aussi une domination patriarcale très importante. Mais ça, c'est pareil, je l'ai découvert en sortant de ce milieu. Et en fait, je me voyais plutôt comme une salariée, quelqu'un qui était un exécutant. Et de fait, je n'avais pas du tout de prise sur les décisions politiques qui pouvaient être liées, tu vois, à mon exercice, le choix des machines, la gestion des employés, le bloc opératoire, etc. Et en sortant de là, en me retrouvant avec une quantité d'argent qui était un petit peu le package, si tu veux. Enfin, moi, j'ai pas touché en plus le chômage donc je suis partie de mes fonctions. J'ai appris à faire très attention et à m'intéresser aux questions du futur, de la retraite. Je suis jamais partie du principe que ma génération aurait droit à une retraite, mais là c'était particulièrement prégnant du fait que voilà, il y avait cette incertitude professionnelle. En essayant de m'intéresser à ces questions, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un univers exclusivement, très masculin. Mais je me suis autorisée à m'en approprier les codes, à me dire ok, ben voilà, toi aussi tu peux, pourquoi pas t'intéresser à qu'est-ce que c'est la bourse, quelle est la manière responsable d'investir son argent, comment est-ce qu'on fait un plan d'épargne, comment est-ce que on répartit un pourcentage, etc., etc. Et je me suis trouvée naïvement, peut-être, mais capable. Alors que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai réalisé a posteriori, mais aussi aberrant que ce soit. Je n'avais aucune formation là-dedans, même en médecine, alors que la plupart des étudiants finissent par ouvrir justement un cabinet, faire de la compta, tu vois. Enfin, c'est quand même apprendre aussi à se faire payer de la part de patients qui trouvent ça aberrant d'avoir à lâcher 30 balles pour un vaccin et de t'avoir vu 3 minutes, tu vois. Et donc, j'ai fait un petit peu mon apprentissage, ma culture. Et tu le vois aussi, même quand tu discutes avec justement ce que j'ai rencontré, des conseillers en patrimoine, etc. À chaque fois, ils sont hyper étonnés, même s'ils ont ton âge, que tu aies ces connaissances-là et d'avoir que tu parles leur dialogue, tu vois. Enfin, pareil, les banquiers aussi. Je suis associée avec mon frère dans l'entreprise. Systématiquement, quand on est en rendez-vous, business, mais a fortiori quand il s'agit quand il s'agit de la banque, c'est à lui qu'on s'adresse et pas à moi.
Classique, même si c'est ton petit frère.
Ouais, alors il y paraît pas, tu vois, mais peu importe en fait. Enfin.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas, il y a même pas une question d'âge qui pourrait rentrer dedans.
C'est clair.
T'as dit plein de choses hyper intéressantes, mais déjà sur l'aspect que tu te considérais comme salarié. Pour moi, il y a un vrai shift dans l'éducation à l'entreprise et dans l'éducation à la façon de créer de la valeur, en fait, tu vois. Et en fait, c'est hyper intéressant que tu te retrouves, toi, en tant que médecin, libéral et que tu te rends, et qu'en fait t'es pas ce truc là et c'est limite pour moi c'est un truc qui se refile en famille quoi, tu vois, tout simplement parce que si tes parents t'apprennent pas que c'est possible de faire comme ça, bah tu le sais pas, tout simplement, personne va te l'expliquer, encore plus en France, je crois. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ce podcast, c'est que pour montrer aussi qu'il y a des autres possibilités. C'était quoi le rapport de tes parents et dans ta famille à l'argent?
Alors,
quand je dis c'était, c'est peut-être encore d'ailleurs. Hein,
ouais. Je viens d'une famille, donc si tu remontes à mes arrière-grands-parents, une famille de paysans et de gens de la terre, oui c'est ça, entre la Suisse et le Jura et du côté de ma mère, Corse-Italie, de gens qui ont fait des carrières, donc à partir de, ouais, plutôt donc arrière-arrière-grands-parents paysans, ensuite mes arrière-grands-parents ont fait des carrières plutôt militaires et politiques, donc ont commencé à prendre littéralement du galon d'un point de vue de la représentation sociale. Mes grands-parents ont fait des études de pharmacie où ont été dans les hautes fonctions publiques. Donc c'est un petit peu, tu sais, cette période des 30 Glorieuses. Alors, self-made, c'était pas des gens du commerce, tu vois, mais un peu quand même, parce que bon, la pharmacie, malgré oui. tout. Donc c'est des gens qui ont très bien gagné leur vie, qui ont investi un petit peu dans l'immobilier, mais c'était pas des gens pour qui l'argent était un sujet omniprésent. C'était, je pense, des gens très responsables, qui étaient très généreux aussi. Qui l'ont été avec nous, mais au sens plus large, tu vois, d'un point de vue, voilà, on en parlait au début, mais associatif, temps donné, etc. L'investissement politique aussi, enfin, je considère que c'est vraiment, enfin, c'est quand tu le fais de façon intègre, œuvrer pour le bien commun,
bien sûr.
Sans compter ni tes heures, ni ce que ça va te rapporter en termes de capitaux financiers ou d'égo, de rétribution d'égo. Et puis, mes parents, ouais, étaient un peu dans la même veine. Ils sont indépendants, en fait, tous les deux. Mon père est médecin libéral. C'est quelqu'un d'extrêmement travailleur, extrêmement sérieux, qui a, et ça, je l'ai compris très tard, mais en fait, est un vrai médecin, quoi, amoureux de son boulot, mais qui s'est jamais empêché d'être un businessman aussi, et qui a très, très bien réussi, justement, et qui, si tu veux, que j'ai découvert moi-même en entrant dans l'exercice libéral, parce que c'est pareil, alors tu vois, dans le genre croyance populaire, croyance en tout cas répandue en médecine, t'as vraiment cette espèce de dimension de représentation très manichéenne du privé versus public. Le privé est forcément des gens qui exercent mal, qui racontent que des conneries, qui sont pas au fait des parutions, etc., et qui sont là que pour rentrer de la thune. Il y en a, évidemment, des comme ça, mais clairement, c'est pas la majorité. Versus le public, crève la dalle, des gens qui ont pas de vie, qui comptent pas leurs heures, qui sont par contre à la pointe de la pointe des connaissances médicales, donc c'est que à l'hôpital que t'es bien soigné. Par contre, tu sais pas si t'es au fin fond d'un pays en voie de développement ou à la PHP, tellement les murs sont dégueux, t'as des dossiers en papier qui font 30 kilos... rien n'est digitalisé, enfin voilà, c'est l'angoisse. Pourquoi ? Parce que t'as cette espèce d'opposition et on l'a vu, enfin tu vois, avec le Covid, quoi. Et moi j'étais persuadée que la voie universitaire c'était la voie de la gloire si tu voulais bien exercer la médecine. Et le jour où j'ai commencé à faire des remplacements en privé, j'ai dit à mon père, ah ben tiens, c'est marrant, je pensais pas que on pouvait bien exercer son métier en libéral, quoi. Et j'ai dit ça, je lui ai fait vachement de peine, mais sans m'en rendre compte, tu vois, parce que je parlais de ma discipline. Et voilà, lui, c'est jamais interdit, tu vois, d'avoir cette double reconnaissance et cette double possibilité de, voilà, à la fois de s'épanouir, de faire bien son métier, mais de bien gagner sa vie. Et donc, ma maman est libérale, elle est juriste en urbanisme. Ça te répond pas trop sur le rapport à l'argent, comment te dire ?
Bah déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que ton père t'a pas transmis ce truc-là, tu vois, de tu peux à la fois être médecin et gagner bien ta vie et en faire un business, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que tu racontais que tu t'étais toujours considéré comme une salariée. C'est assez fort.
Je sais pas exactement pourquoi. Peut-être que encore une fois, c'est une place que j'ai pas prise non plus, tu vois, avec ce fameux syndrome de la bonne élève. Moi, j'ai quand même été étiquetée très tôt l'enfant sage et premier de la classe de la famille. Et du coup, ça te donne pas beaucoup d'autres possibilités d'entreprendre au sens large. Tu vois, tu es quand même dans un rôle dans cette case salariat. Tu sais, c'est le fameux employee of the month, quoi. Enfin, j'étais un peu là-dedans.
Employé du mois,
c'est ça. C'est ça. Je sais pas si ça existe, ça, en France. C'est pour ça que je le dis en anglais. Mais en gros, ouais, c'est un rôle que j'ai jamais empoigné aussi parce que voilà, je suis rentrée dans des études dans lesquelles, c'était pas du tout une possibilité pour moi. Et ça vient aussi de la surspécialité que j'exerçais. En fait, cette fameuse discipline chirurgicale, elle ne s'exerce quasiment qu'à l'hôpital. Donc, en fait, dans ma tête, ça avait jamais vraiment été un sujet. Après, et encore une fois, cette boîte, je l'ai montée avec mon frère et au départ, c'était un side project et c'est lui qui s'est greffé au truc en se disant « Mais viens, montons une entreprise parce que je suis sûre que ça peut devenir quelque chose. » Et moi-même, je pense pas que je me sois sans lui autorisée à faire ça. Voilà, mais en tout cas, enfin, pour résumer sur le rapport de ma famille à l'argent, il y a la notion que avoir de l'argent donc est rassurant et une chance dans la vie. Il y a aussi un fort attachement à la pierre. Tu vois, on est très patrimoine immobilier, donc non pas qu'on en ait des milliers des cents, mais en tout cas, si tu veux faire prospérer ton argent et si tu veux être sécure, c'est là-dedans qu'il faut aller. Il y a un attachement aussi au lieu, tu vois, qui est assez fort. Ce côté construire et s'enraciner quelque part, c'est assez important, je pense, dans ma famille. En tout cas, c'est ce qu'on m'a transmis. La notion de risque associée à l'argent, elle a existé. Mais clairement, on m'a toujours dit, voilà, l'investissement en bourse ou dans des boîtes, faut que tu saches que c'est de l'argent que tu potentiellement perds en totalité. Ça, c'est assez cool, tu vois, de le savoir. Et puis, il y a aussi cette notion très importante de kiffer. Et ça, c'est très cool d'avoir grandi avec ça. Mon père, c'est un énorme kiffer. C'est quelqu'un qui, je pense, a un gros problème avec le fait de vieillir et le fait de mourir aussi un jour, qui a cette espèce d'urgence de vivre que j'ai aussi du fait d'avoir côtoyé la mort et la maladie de très très près. Et ça, depuis enfant, mais encore plus depuis mes études, ce côté, en fait, cette ambivalence de... Ou plutôt, c'est pas une ambivalence, cette balance entre le « je meurs demain » ou « dans 5 minutes », et le « je construis dans le temps long », quelque chose qui a du sens, à savoir ne pas cramer ton oseille tout feu, tout flamme en faisant n'importe quoi, mais en même temps ne pas être un écureuil qui passe son temps à être angoissé à l'idée de manquer ou de ne pas avoir un jour un statut qui serait lié à l'accumulation des richesses. Et ça, c'est un truc, je suis genre ever grateful parce que j'adore cette... Enfin, j'ai toujours vachement profité. Voyager, enfin... donner aussi et c'est pour moi c'est vraiment une ultime richesse, tu vois, d'avoir ça.
Ok, c'est ton frangin qui est venu avec l'idée de construire une boîte, donc tu veux dire que ouais. Lui il avait plus l'aspect business en tête.
Lui il a fait des études de business et il a toujours eu envie de monter une entreprise à impact. Et en fait, il y a eu vraiment une croisée des chemins où l'hosto, j'en avais ras-le-bol. Moi, j'ai toujours dit que je voulais changer de métier. Je voulais ouvrir une galerie d'art autour de 40 piges. Et je le voyais comme ça, mais je pensais accumuler justement de l'argent, justement en tant que radiologue avant. Et bon, il se trouve que la vie a fait qu'en parallèle, je développe plusieurs projets, dont cette idée que j'avais de The Good Goods, qui est l'entreprise qu'on a aujourd'hui, qui était dans ma tête un side project, qui était un support écrit sous forme de blog pour parler de l'industrie de la mode en tant que pollueur massif et responsable de tas d'injustices sociales et quelles étaient les solutions pour remédier à ça. Et c'est lui effectivement qui, au moment où j'en ai parlé, revenait du Costa Rica, il avait passé un an à bosser pour une boîte, il travaillait dans une fintech à l'époque. Et
une entreprise qui fait, enfin une start-up, ouais, une qui start-up bosse dans tech. Le milieu financier, donc
c'est vieux, ça. Pardon,
oui, s'ils savent pas.
Une entreprise qui développe des solutions d'incitation aux dons digitalisées. Et donc voilà, il s'est dit bah pourquoi pas, tu vois, enfin créons une structure, une entité au sens législatif du terme, quoi.
Et à partir de là, mais on n'avait pas de business plan, tu vois, c'était plus des statuts.
En fait, je te posais la question pour savoir s'il y avait vraiment eu une différence d'éducation entre ta sœur et toi, parce que tu as une sœur, et ton petit frère, tu vois, ou est-ce que ton frère, il a été plus, lui, directement attaché à l'aspect business et à l'aspect gagner de l'argent, là où toi, tu avais un peu ce truc de vouloir sauver les gens, enfin, tu vois, aider les gens. D'ailleurs, tu m'as pas expliqué pourquoi tu t'es foutu aussi dans des études de médecine. C'était pour faire comme papa ou il y avait aussi cet aspect financier qui rentrait en jeu derrière?
Alors, l'aspect financier en tant que tel, non. En revanche, la dimension sécuritaire, et tu vois, on en revient au premier mot-clé, carrément. C'est-à-dire que, en fait, j'étais très rassurée par l'idée, une fois rentrée en médecine, hein, parce qu'on peut revenir sur le pourquoi j'ai fait ça après, mais une fois rentrée en médecine, je me suis dit, golden ticket. En fait, chaque année, depuis ma réussite au concours de première année, je ne me suis pas sentie à ma place. Et tous les six mois, je me disais, c'est cool, j'apprendrai des trucs sympas, je rencontre des gens intéressants, mais j'ai l'impression que j'habite pas vraiment mon existence. Mais bon, on va continuer quand même, parce que le golden ticket, c'était l'image que de la représentation d'un médecin dans la société, le fait d'avoir la certitude d'avoir toujours un emploi, le fait d'avoir la certitude d'avoir un salaire cool et de faire partie des gens qui se posent pas de questions à la fin du mois. Donc ça, clairement, je l'avais en tête. En revanche, combien dans la fourchette se situait entre 5 000 et 30 000, j'en savais rien, parce qu'en fonction de si t'exerces à l'hôpital ou pas, à mi-temps ou pas, enfin c'était vraiment du simple au x10. Et puis je sais pas du coup si tu veux que je réponde à la question pourquoi je me suis mis là-dedans, mais en gros, il n'y avait pas du tout cette notion d'argent au début. Par contre, il y avait effectivement une volonté de bien faire et de faire ce qu'on attendait de moi. Et je pense qu'il y avait une censure créative aussi. Et dans l'imaginaire de ma famille, les métiers créatifs étaient des métiers, étaient pas des métiers en fait, tout simplement. Et j'ai un oncle qui est un artiste, qui a été un petit peu le paria auquel on a dit quand il était enfant, tu ne feras pas ça parce que il voulait être peintre et ou prof. Et en gros, les deux métiers, c'était des métiers de gens de gauche. Alors qu'on soit clair aussi, hein, j'ai une famille qui est très à droite historiquement, en tout cas du côté de mes grands-parents. Et enfin génération de mes grands-parents, et pour eux c'était pas recevable, c'était pas des métiers quoi. Donc c'est vrai que je me suis jamais laissé cette possibilité. En revanche, tout ce qui était un petit peu intermédiaire, à savoir notamment le design, parce qu'à un moment donné je voulais être très fort designer d'automobile, on n'avait pas idée de par où fallait commencer, tu vois, pour faire ça. Et donc à aucun moment j'ai considéré que c'était une option quoi. Et pour ce qui est de l'éducation, je pense que mon petit frère a beaucoup moins eu cette dimension de vocation, imposée ou pas, que lui, il n'était pas hyper scolaire, et qu'il a tout de suite compris qu'il fallait être démerdard, et il s'est tout de suite justement démerdé, notamment en termes d'argent de poche. Il a commencé à faire des petits business au lycée, à être le premier à commander, tu vois, sur les sites e-commerce, à l'époque des prémices du e-commerce, des trucs made in China pour les revendre pour dans les cours de récré.
Ah,
enfin voilà, tu vois. Donc,
je vois le style.
Ce genre de mindset.
Et toi, comment tu regardais ça en fait, le fait que lui, il se démerde pour aller chercher de la thune et tout, ça te faisait dire quoi? Vous avez combien d'années d'écart?
On a 3 ans et 8 mois avec ma sœur qui est mon aînée et mon frère qui est mon petit frère. Écoute, j'en sais rien parce que je pense que je l'ai appris a posteriori. Il y a une chose dont je me souviens, tu vois, en discutant là, c'est que par contre, j'ai toujours eu une volonté d'indépendance très très forte. Je pense que ma mère a quand même été dépendante de mon père financièrement, et que pour moi, notamment en tant que femme, c'était un no-brainer, quoi. Et donc, j'ai toujours su que je voulais être libre de pouvoir justement m'épanouir, voyager, investir dans ce que je voulais, et notamment dans l'art, c'est arrivé très tôt. Et pour ça que je voulais avoir besoin de personne, donc j'allais avoir besoin de gagner une certaine somme d'argent, mais je voulais le faire toute seule. Et la deuxième chose qui est très importante aussi pour moi, c'est que C'est marrant, tu vois, je conçois la redevance, mais je n'attends rien en revanche des autres et certainement pas de ma famille. Alors je suis très très consciente de la chance que j'ai eue d'avoir eu la possibilité de grandir dans une sécurité financière, d'avoir fait ces études aussi longues, d'avoir été soutenue par mes parents, etc. Mais en revanche, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui touche à l'héritage et cet argent bonus entre guillemets, pour moi ça n'existe pas. Le jour où ça tombe, si ça tombe, c'est tant mieux. Mais en attendant, j'ai toujours considéré que je devais être autosuffisante, partir de zéro. Et ça, depuis la seconde où j'ai commencé à faire du babysitting à 14 piges, comme une... tous les soirs, le week-end, etc. Et me constituer une trésorerie, notamment, qui m'a servi pendant toutes mes études. Tu vois, par rapport à mon frère, en fait, j'étais un peu un bulldozer, quoi. Je savais que c'était self-secure et je savais que j'aurais rien à demander à personne par la suite. Et à tel point, c'est drôle, mais que mon père a un rapport à l'argent très différent à ses trois enfants. Au sens où, dès que ma sœur, qui elle, pour le coup, est artiste, était beaucoup plus dans un rapport infantilisé, insécure en tout cas dans sa vie professionnelle, elle a toujours été très aidée. Notamment par mon père. Et moi, dès que je lui demandais d'être caution pour un appart ou je disais, bah voilà, c'est un peu dur ce mois-ci, et il me disait, non, mais bon, c'est bon, toi, tu fais un remplat et puis t'es pété de thunes, tu vois, avec ces expressions-là.
Ah, et, intéressant. Ça veut dire que vous n'étiez pas logé à la même enseigne?
Pas du tout.
Ok.
Non.
Parce que toi, t'étais un peu, comme tu savais te démerder, et il fallait filer un coup de main à ta sœur qui était dans une carrière artistique, quoi.
C'est exactement ça.
Comment tu vivais en tant qu'enfant
Là où je pouvais ne pas bien le vivre, c'était dans la démonstration d'affect. Si tu veux, je me disais, si j'associe ça à l'amour qu'il porte à ses enfants, oui, clairement, il me manque des billes, tu vois. Mais en pratique, non, je pense que c'était juste... si tu veux, j'en ai pas fait un,
putain, j'ai reparlé
un
avec
sujet,
lui.
Quoi.
C'est intéressant.
Non, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois, je l'ai eu au téléphone il y a 2 heures et que il m'appelle encore docteur. Enfin, tu vois, je décroche le téléphone, il dit « Ah, ça va docteur, docteur Satonnet ». Et il n'arrive pas à se départir du fait que... Alors, bon, je serai toujours docteur, hein, c'est un titre, oui, c'est un fait. Mais pour lui, c'est pas concevable et je pense qu'il comprend pas tout à fait ce qu'on fait et que... Et que voilà, ce statut, cette posture reste intéressant. Je sais pas. Enfin, je sais pas quoi te dire. On se construit vachement dans le regard de ses parents, et donc. Ce qui est chouette, c'est que je me suis émancipée justement de son regard et de la validation que j'attendais de lui ou de ma mère à travers. Toutes ces cases que j'ai pu cocher, que ce soit en termes de financiers, tu vois, avec cet exercice médical, ou de diplôme. Aujourd'hui, c'est self-made, j'ai aucun diplôme pour mon exercice actuel. Le fait de maintenir une boîte à flot, il y a que moi qui puisse en être fière, en fait, et j'ai pas besoin... c'est pareil que l'héritage, c'est du bonus, tu vois. S'il me dit, c'est bien, je suis heureux pour toi, je suis fier de toi, c'est cool, mais je l'attends pas.
Oui, t'as raison, en fait, on se construit beaucoup par rapport à ses parents, mais ce que je veux réussir à décrypter aussi avec ce podcast, c'est comment les parents viennent te mettre aussi des trucs dans la tête, tu vois, dans ton rapport à l'argent. Il y a un truc que tu m'as dit qui était très intéressant, c'est que tu faisais du babysitting, c'est-à-dire que, en gros, tes parents gagnaient bien leur vie, j'imagine que t'avais pas forcément besoin de pouvoir faire ces petits jobs-là pour pouvoir... je sais pas, vivre ta vie, faire tes sorties, etc. Mais t'as eu très très vite l'idée de te dire, ok, faut que je gagne ma thune, quoi.
Ouais, et je vais même te dire un truc, j'ai eu très très vite, j'ai refusé de l'argent de poche.
Ah.
Et c'est pour ça que j'ai fait du babysitting.
Okay.
Et ça, c'est un truc, effectivement, mon frère et ma sœur, on n'a pas du tout vécu les choses de la même manière. Pour quelle raison? J'aurais du mal à te dire, mais en tout cas, je sais qu'autour de 13-14 ans, je voulais plus avoir ce lien de dépendance financière à mes parents. Et
wow.
Donc,
et ton frère et ta sœur continuent à l'avoir?
Ouais, mais même plus tard, parce qu'en fait, dès que j'ai commencé mes études de médecine, je faisais des gardes de nuit en deuxième année en tant qu'aide-soignante, en post-opératoire et en maison de retraite. Donc, littéralement, tu changes les couches de personnes âgées. Tu ne dors pas puisque tu réponds aux sonnettes de patients qui sortent du bloc et qui sont douloureux, donc entre 19h et 7h du mat. Et je sortais de là, je gagnais 150 euros la nuit, donc c'était vachement bien, tu vois, pour moi, j'avais 18 ans. En revanche, j'allais en stage le lendemain et je me mettais assez mal quand même. Donc, ça m'a permis... de faire des voyages de ouf, d'aller boire des coups avec mes potes, enfin ça c'était hyper cool, mais effectivement j'avais cette volonté d'indépendance très vite. Et c'est un truc qu'on a pas partagé avec mon frère et ma sœur, puisque eux ont fait des études de commerce dans des écoles qui coûtent la blinde. Enfin voilà, moi j'ai jamais eu de prépa privée, ni en première, ni en sixième année. Donc pour le concours d'internat, c'est quand même des boîtes qui coûtent entre 6 et 10 000 balles par an. La seule chose que mes parents m'ont payé, par contre, c'est 500 balles de fac chaque année, plus, allez, peut-être quoi, entre 1 000 et 1 500 euros de bouquins étalés sur 11 années d'études, tu vois.
Putain, je trouve que ça aussi, c'est hyper intéressant, la différence qu'il peut y avoir entre, au sein d'une même famille, tu vois, de traitement par rapport à l'argent. Et je dis même pas la façon dont tes parents te filaient ou pas de l'argent, quoi, tu vois, mais plutôt ce truc de toi-même décider à un moment donné de te dire, en fait, ce lien-là, je veux pas l'avoir avec mes parents, quoi. C'est trop... ça me fascine toujours.
C'est d'autant plus intéressant, je trouve que... Dans ma transition professionnelle, c'était assez complexe. Hein. J'en parle avec beaucoup d'aisance, mais bon, il y a quand même eu 4 ans. Enfin, ça fait 4 ans que la boîte existe et ça fait quelques mois seulement que je suis à temps plein dedans et que j'exerce plus du tout la radiologie. J'ai dû être accompagnée justement dans cette transition par une personne qui m'a aidée dans mon développement personnel pour non pas renier, mais accepter la déconstruction sociale. Accepter d'avoir des diplômes qui ne servent à rien, d'avoir un titre que je n'utilise pas. Accepter de gagner littéralement 10 fois moins d'argent, parce qu'on parle vraiment de ce rapport-là, hein, entre la théorie de mon exercice libéral et puis la pratique aujourd'hui, dans la boîte. Et en fait, j'ai bossé beaucoup...
Juste, mais pour expliquer, c'est que t'as fait pendant très longtemps, de ce fait-là, des remplacements pour pouvoir gagner ta vie.
Ouais.
Là où ta boîte actuelle pouvait pas te payer, enfin, tu pouvais pas te rémunérer avec ta boîte, quoi. Juste pour expliquer, pour être très concret, quoi.
En fait, ça
et
fait,
donc, tu t'es fait aider, c'est ça?
Ça fait 14 mois qu'on se paye, et on voulait pas se payer des clopes, on voulait se payer un vrai salaire, donc c'est pas mirobolant, mais on voulait pas se payer 5 ou 800 ou 1000 euros symboliques. On s'est dit, ok, le jour où on se paye, bah, c'est qu'on peut assumer un loyer, voilà, un niveau de vie.
Donc c'est quoi aujourd'hui ton salaire?
Aujourd'hui, je gagne 2500 euros par mois.
Ok. Net?
Net.
Donc ce qui coûte 5000 balles.
À la boîte.
À la boîte.
Voilà.
Pour expliquer bien aux gens. Hein.
Ouais.
Ce qui est beaucoup d'argent, et vous êtes deux.
On est deux associés et on est 6 en tout dans l'entreprise, si tu comptes CDD, CDI, alternant.
Donc c'est pas mal de sous qu'il faut sortir juste, entre guillemets, pour les salaires, quoi.
Ouais.
Déjà.
Carrément. Et donc,
pardon, tu t'es fait aider, en fait.
Je me suis fait accompagner dans cette déconstruction. Et j'ai énormément travaillé sur la mémoire transgénérationnelle et la notion de devoir, ce qu'on doit à ses parents. On leur doit la vie, on leur doit des études, on leur doit l'argent qu'ils ont investi, etc. Et en fait, j'ai compris que cette notion était fausse. Elle était complètement erronée, à savoir, normalement, quand tu fais un enfant, c'est un acte d'amour, d'intégrité totale envers toi et envers la personne avec qui tu le fais. Et ce petit être, t'es censé tout lui donner, mais ne rien en attendre. En tout cas, c'est la manière dont je perçois la chose aujourd'hui. Moi-même, j'ai pas d'enfant, mais j'espère, si ça m'arrive, avoir vraiment le faire dans cette dimension-là, avec cette éthique, on va dire. Et de fait, j'ai déconstruit justement ce rapport à mes parents que j'avais, ce que je leur devais. Je ne leur devais pas de faire des études. Je devais pas, finalement, cette bonne élève, elle avait pas de raison d'être. Et du coup, je pense que casser ce lien donc par l'argent à mes parents très tôt, c'était déjà une manière de leur faire comprendre que je voulais mon indépendance et que j'en avais marre d'être cette bonne élève. Sauf que il y a eu un moment entre, tu vois, l'action et la réalisation. Mais à mon sens, ouais, c'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui.
Je vous renvoie au premier épisode du podcast avec Christian Junot, où il a tout un exercice de déloyauté qui est hyper intéressant. Et notamment de déloyauté par rapport à tes parents, mais ça peut être aussi par rapport à, je sais pas, un associé, quelqu'un qui t'aurait, à un moment donné, qui t'aurait aidé. Mm-hmm. Il faut réussir à un moment donné, se sortir de là, quoi. Donc ouais, t'as fait cet accompagnement-là avec un coach, un thérapeute, c'est ça, c'est ça.
Ouais, c'est okay. Ça exactement. C'était sur à peu près 4 mois, à raison d'une fois tous les 10 jours. Je savais pas du tout où ça allait me mener, si ce n'est que j'avais besoin de repères pour avancer et pour ça aussi, c'est très intéressant. En tout cas, enfin, ça m'a paru très intéressant de accepter. Empoigner ma légitimité dans le business et dans cette entreprise. Parce qu'en fait, j'ai réalisé aussi, grâce à lui, que je prenais que 60%, 50% de risque, finalement, en gardant cette facilité de gagner 1000 euros par jour. Donc c'est facile, tu vois, tu fais 2 jours, 3 jours, une semaine par mois, et bah, t'as de quoi vivre extrêmement, aisément. Et au final, je ne mettais jamais en danger, en fait. Et du coup, je ne m'investissais jamais à fond pour cette entreprise. Je l'étais mentalement, mais je ne l'étais pas concrètement. Et notamment par rapport à mon frère, c'était très asymétrique, parce que lui, il n'avait pas cette soupape. En fait, le choix qu'il avait, c'était de repartir dans une boîte ou de remonter quelque chose à côté. Mais de fait, il ne pouvait pas avoir ce confort. Lui avait le chômage, que moi, je n'avais pas. Mais ça n'allait pas être infini, quoi. Et donc, finalement... lâcher ce parachute doré, c'était un acte de foi dans cette entreprise et c'était aussi un espèce de serment que je me faisais à moi-même de réussir et à lui de nous accompagner dans cette réussite potentielle. Alors après, la définition de la réussite, on peut aussi étayer là-dessus, mais en tout cas, voilà, couper le cordon, c'était important pour moi, pour lui et pour l'entreprise.
Comment t'as vécu ces années d'abondance financière quand... l'argent coulait à flot. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que t'as fait de ces sous? Donc on est mis d'accord pendant 1 an et demi, c'est ça?
Ouais, c'est ça, à peu près 2 ans en fait, okay. Entre le moment où j'ai quitté l'hôpital. Alors à l'hôpital, en tant que chef de clinique, je gagnais quand même bien ma vie, mais sans commune mesure avec le privé. Et le privé, oui, c'est ça, c'était quasiment 2 ans.
Tu gagnais combien en tant que chef de clinique à l'époque?
À peu près 6 000 euros par mois.
Ok, ouais. Ce qui est déjà un salaire qui te met tout de suite dans les salaires très riches des Français.
La moyenne des salaires très riches, en effet. De façon très schématique, donc je peux te répondre, j'ai eu un fonctionnement extrêmement binaire. La première chose que j'ai faite, c'est, j'ai cherché, encore une fois, on y revient, mais à me sécuriser. J'ai acheté un appartement en allant voir le banquier. Alors, c'était au tout début de mes remplacements. Donc, j'avais un salaire faible à l'hôpital. En revanche, j'avais un potentiel de salaire important à côté. Et donc, j'ai négocié comme ça la possibilité de faire un emprunt. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai investi dans la pierre. J'ai acheté un appartement en 2 pièces à Paris dans lequel j'ai d'abord vécu et ensuite que j'ai loué, ce qui est encore le cas aujourd'hui.
Et ça représente un investissement de combien pour rentrer un peu dans les chiffres?
C'est un appartement qui... Alors, tu veux dire ce que j'ai mis de ma poche ou...
Globalement, combien coûte ton appart, toi, tu vois?
Je pense que c'est approximativement 350 000 euros aujourd'hui.
Tu l'as pas payé autant à l'époque, c'est ça?
Je l'ai payé moins à l'époque, mais c'est surtout qu'il n'est pas encore totalement à moi. Donc voilà, enfin, je suis encore en train de rembourser un prêt. Une fois que j'ai eu fait ça, je pense qu'avec le reste de l'argent qui était liquide, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Alors je me suis fait kiffer, clairement. J'ai fait des voyages extraordinaires. J'ai pu aussi me laisser un petit peu porter parce que j'ai fait notamment un voyage de 4 mois, assez ouf, dans lequel j'ai dépensé sans vraiment compter. J'ai investi dans l'art, qui était une chose qui était importante pour moi. Avec des budgets très variables, c'est de 90 à 2000, 3000 euros. C'est vraiment plus au coup de cœur et c'était pour, sans m'en rendre compte, commencer à m'entourer de belles choses et à collectionner. Et puis, le reste, Je saurais pas trop te dire, je m'achetais des fringues, je revendais, j'avais pas trop de considération en fait. Et surtout, j'avais aucun plan. C'est-à-dire que comme ça coulait entre guillemets à flot, bah, je savais que ce que je dépensais allait rentrer à un moment donné. Et j'avais jamais vraiment constitué de plan rationnel. Et chose que je n'ai faite que très tard, puisque ça fait que quelques mois que j'apprends à juste à comprendre ce que c'est qu'un portefeuille, répartir des pourcentages. Alors je pense que ça va paraître aberrant pour la plupart des gens qui nous écoutent et qui diront mais c'est probablement ce qu'elle a une cuillère en argent dans la bouche, qu'elle a jamais eu à s'en soucier, qu'elle est tombée de la lune. Mais en même temps, je trouve que ça, tu vois, dans l'éducation de mes parents, ça a été vraiment quelque chose qui a manqué. Et le fait qu'on parle pas d'argent, on nous a pas non plus appris à en prendre soin, ne serait-ce que sans le faire fructifier, à considérer sa valeur, quoi. Et
dans quel sens?
Bah, considérer la valeur au sens travail du terme, tu vois.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est tu dis que tes parents t'ont pas vraiment, enfin, en tout cas dans la famille, vous êtes pas vraiment, ils vous ont pas appris, c'est ça, à je sais pas épargner, ouvrir, je sais pas une assurance vie ou un truc comme ça, c'est ça que tu.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as envie de dire à la Victoire qui fait des radios, enfin qui gagne 20 000 balles par mois aujourd'hui, si t'avais la possibilité de refaire.
En fait, je crois que j'ai pas vraiment envie de lui donner une leçon a posteriori, parce qu'en fait cette leçon je la vis tous les jours au quotidien. Je vais essayer de formuler ça de façon concrète. Je pense qu'elle réalisait pas du tout ce qu'elle avait entre les mains en termes de pouvoir d'achat, et que ça l'intéressait pas, et qu'aujourd'hui ça ne l'intéresse toujours pas. Aujourd'hui, mon but c'est pas de gagner 20 000 euros par mois, c'est au contraire, de décorréler le plus possible la notion d'achievement et d'épanouissement de celle du fait de gagner de l'argent. À l'époque, c'est peut-être ça que je pourrais lui dire, c'est cette quête d'argent et cette abondance ne t'amènera pas à la satisfaction d'accomplir ta vie, en fait la sensation d'accomplir ta vie au quotidien. Et donc cette quête est vaine. Sache-le maintenant. Sois très au fait que tu as envie d'avoir un certain niveau de vie, parce que tu aspires à te faire plaisir, voyager, on en a parlé. En revanche, ne te trompe pas de quête, quoi. Ne te trompe pas de combat. Et finalement, elle a compris toute seule la Victoire de l'époque en étant au top du game potentiel, voilà, de cet argent, quoi, ouais. Tout court. Et en se rendant compte que je flétrissais de l'intérieur, tu vois. Enfin, j'avais 31 piges. Alors le burn-out, c'était avant, j'avais 29, ouais, 30 ans.
Le burn-out était un annonciateur de quelque chose déjà. En fait.
C'est ça. J'étais dans un espèce de tunnel sans fin de possibilité théorique de m'épanouir à travers une accumulation dans laquelle je savais qu'il n'y avait pas d'issue pour moi. Et plus la reconnaissance sociale et plus le gain d'argent était présent, et plus je m'éloignais de moi-même, en fait. Et aujourd'hui, après tout ce travail de déconstruction, et puis finalement la preuve par l'action, quoi, je sais que le futur est beaucoup plus incertain, mais j'ai jamais été aussi heureuse et y a jamais autant eu de sens à mon existence, de manière très naïve, hein, peut-être, mais qu'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si je dois être tout à fait honnête, j'aspire à gagner davantage que 2500 euros par mois par rapport au niveau de vie que j'ai envie d'avoir, la vie aussi que j'ai envie de partager avec quelqu'un et potentiellement dans le cadre de la parentalité aussi, tu vois, de pouvoir offrir à des enfants ce que moi-même j'ai eu. Mais en revanche, la quête des millions ne m'intéresse pas, tu vois. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est comme l'héritage. Ce sera, si ça doit arriver, tant mieux, so be it, on verra à ce moment-là. Mais ce n'est pas du tout mon motto, quoi. Enfin, ce n'est pas la chose qui me drive. Et c'est d'autant plus que, si tu veux, la médecine, en théorie, je peux y retourner dans 5 ans si je veux, en refaisant une mise à jour, une formation X. Enfin, donc cette option, je l'ai en fait, et elle ne m'intéresse pas.
On a eu toute une discussion sur le Discord de ma commu cette semaine, notamment par rapport à l'argent et par rapport au fait qu'il y avait quelqu'un qui disait que quand t'as de l'argent, cette personne disait plus exactement, moi j'ai jamais entendu quelqu'un riche me dire qu'il était malheureux. Je dois faire des
gros yeux. Moi aussi, je peux te le dire.
Et en fait, la question que je voulais te poser, c'est comment tu vivais cette ambivalence d'avoir réussi à, quelque part, à avoir cet argent sur ton compte et en fait te dire, bah, en fait, j'ai réussi à cocher l'aspect sécuritaire de tes envies, en fait. Et en même temps, d'avoir l'impression de flétrir, comme tu disais.
Alors, je le vivais de façon très somatique. Et je pense que le burn-out est la conséquence de tout ça. En gros, j'ai toujours été quelqu'un d'hyperactif, très curieuse, intéressée par des tas de choses, des tas de domaines différents. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était ma personnalité d'avoir toujours l'impression que d'avoir cette espèce de FOMO, tu vois, d'envie de découvrir autre chose, faire autre chose, m'intéresser à plein de disciplines différentes.
Alors FOMO, c'est la peur de manquer.
Ouais, c'est ça, c'est le fear of missing out, donc la peur de pas être au bon endroit au bon moment, de rater des opportunités.
Ou de manquer d'argent.
Ou de pas rencontrer les bonnes personnes, enfin voilà. Et donc d'être dans cette frustration permanente. Et j'avais la sensation que bah voilà, c'était moi, j'étais comme ça. Il y avait d'ailleurs j'avais été vachement marquée par la conférence de Emily Wapnick qui s'appelle Why Some of Us Doesn't Have a True Calling. Donc pourquoi certains d'entre nous ont l'impression de pas avoir de vocation. Et donc elle a créé toute une sphère autour de ce qu'elle appelle les multipotentialites, donc les gens qui se lassent, qui changent de discipline tous les 6 mois, qui sont plutôt bons dans ce à quoi ils touchent et qui ensuite changent. Et je pensais être comme ça. Et en fait, j'ai réalisé secondairement que c'était simplement parce que je n'étais pas épanouie dans ce métier-là que j'avais besoin de consommer tout ce que je pouvais à côté. Et alors vraiment, matériellement, c'était ça. C'est-à-dire que je sortais de l'hosto, mon premier stage à la Pitié, je faisais 8h, 20h, 21h, 6 jours sur 7 dans un service de réa. Je sortais de là, je prenais mon Vélib avec mon mec à l'époque et on faisait du Vélib jusqu'à 3 du mat en pleine semaine pour aller dans plein de quartiers différents de Paris, voir des trucs, consommer d'autres choses, des conférences, des vernissages, des expos, des soirées, enfin tout ce que tu veux, mais j'avais besoin de me sortir de cet environnement en pensant que j'étais juste quelqu'un d'hyperactif, quoi. Et donc ça a fini par me mener des années après, à faire un burn-out, parce que bah, à l'époque où j'étais chef de clinique, trop de responsabilités et plus la possibilité d'avoir cette double vie sans en payer les pots cassés, sans que mon corps y passe. Donc ça, c'est pour répondre à ta question, comment tu vivais cette abondance. Et aujourd'hui, si on peut parler de frugalité par rapport à ma vie actuelle, je suis toujours quelqu'un d'hyperactif et de très curieux. En revanche, j'ai beaucoup plus de balance, en fait. Je suis beaucoup plus équilibrée parce que j'ai la pleine conscience de chacun des moments de mon existence professionnelle et de cette espèce de réalisation de qui je suis à travers cette vie-là. Donc, voilà.
Ok. J'aimerais bien qu'on fasse le parallèle entre abondance financière, parce que moi, j'ai parlé d'abondance financière et toi, t'as parlé d'abondance. Et en fait, pour moi, l'abondance, c'est un truc avec un A majuscule qui est un peu plus grand que ça, en fait. C'est-à-dire, c'est, effectivement, ça peut être de l'argent, mais ça peut aussi être bah, peut-être un peu moins d'argent, mais un peu plus de kiff dans ta vie, en fait, parce que c'est avant tout ça pour moi. Et on en a parlé aussi avec Christian Junot. C'est pour ça que je me permets de rebondir là-dessus, pardon. Tu parlais aussi du fait d'avoir, quand tu avais beaucoup d'argent, d'avoir énormément accumulé de choses. Et je me demandais à quel point, et notamment tu me parlais du fait que tu avais aujourd'hui du mal à payer certains frais que peuvent engendrer ton appartement que tu es en train de louer, donc, en tant que propriétaire. Je me demandais en fait à quel point les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Ça te parle ça ou pas ?
Alors, ça me parle, je suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase. C'est pas tant mon appartement dont je suis propriétaire que le précédent que j'avais avec mon ex-compagnon, qui était un petit peu le summum de la vitrine de l'appartement parisien, grand, haussmannien, magnifique, lumineux, etc., qu'on avait ensemble et qui, au moment où on s'est séparés, alors que je gérais plein de trucs différents dans ma vie, j'ai pas voulu le rendre tout de suite et a fini par être un peu un poison puisque a nécessité que je me remette à faire davantage de remplacements pour pouvoir assumer un loyer dans un endroit qui était magnifique mais dont clairement j'avais pas besoin de la moitié de la surface et puis surtout de toute cette toute cette espèce de clinquance, quoi, associée au lieu. Donc effectivement, c'est devenu assez pesant.
C'était une forme de statut pour toi, c'est ça ?
Ouais, bon, c'était, et puis c'était un statut aussi de couple, hein. Enfin, c'était avoir projeté dans un endroit en pensant naïvement, mais là aussi, tu vois, c'est intéressant, en pensant que la représentation allait faire l'essence du couple, quoi. Et donc on est allé vers une image alors que le fond n'était pas présent, et clairement ça a duré 8 mois dans ces murs, et puis ensuite on s'est rendu compte que la base n'était pas assez solide, et d'ailleurs, enfin je veux dire, nombreux sont les couples qui vivent dans 20 mètres carrés très heureux pendant X années parce que bah juste ils sont solides, quoi, et que l'emballage ne fait pas l'essence, n'est-ce pas? Et après, pour ce qui est des objets, ça, je suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai jamais été une accumulatrice compulsive, ni de vêtements, pourtant Dieu sait que j'aime ça, ni d'objets en général. J'ai été biberonnée, je me suis auto-biberonnée à Tesson, notamment, quand j'étais ado. J'étais dingue de ces contenus, je trépignais à l'idée de pouvoir prendre mon sac à dos dès que possible pour barouder, voyager comme lui. Et lui m'a vachement, tu vois, transmis cette idée, effectivement, qu'il fallait, c'est ce que disait Confucius aussi, que tu ne puisses emporter que ce que tu ne... que tu ne possèdes que ce que tu peux porter, en fait. Et donc, j'ai eu, par cette culture du backpack et du voyage très léger, eu cette notion-là, tu vois, de l'essentialité. De l'importance aussi de la richesse de choses qui étaient immatérielles, les mots, l'écriture, enfin c'est des trucs qui sont, voilà, enfin des piliers dans ma vie, et qui sont vraiment, voilà, dématérialisés, enfin sans valeur financière aucune. Maintenant j'ai un rapport quand même assez affectif aux objets, l'art par essence, hein, clairement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué aussi familialement. J'avais des grands-mères qui étaient très attachées justement aux objets de haute valeur sentimentale, artisanale, au savoir-faire, à la tradition, à l'héritage patrimonial, en fait, et au patrimoine, à l'immatérialité, si tu veux, de la richesse, ou alors en tout cas à l'aspect non financier de la richesse que peut revêtir, voilà, enfin, une œuvre d'art, un vêtement, un tableau, un meuble, ce que tu veux. Et donc ça, j'ai toujours été éduquée avec cette notion de prendre soin des choses, de posséder des choses de grande valeur sentimentale. Après, c'est une aberration écologique aujourd'hui, mais une de mes grand-mères qui voyageait beaucoup a ramené beaucoup de choses, en fait, de pays étrangers, tu vois, qu'elle a gardé toute sa vie, dont certains j'ai pu hériter, tu vois. Et aujourd'hui, pareil, j'aspire pas à avoir une maison minimaliste. J'ai peu de choses, j'ai beaucoup de livres, et les choses dans lesquelles j'investis, j'hésite pas d'ailleurs, tu vois, à mettre une certaine somme d'argent quand elles sont importantes pour moi, et je me vois évoluer dans le temps long avec ces objets.
Ok. Comment, justement, ton rapport aux objets et ton rapport à la consommation d'une manière générale a changé avec ton changement de statut, et notamment depuis que tu as arrêté de faire tes remplacements et depuis que tu es rentré dans un salaire un peu plus, on va dire, normal pour un Parisien, quoi. Parce que pour plein de gens, 2500 euros net, c'est déjà beaucoup d'argent, mais pour vivre à Paris, c'est un... Tu payes combien de loyer aujourd'hui ?
1248 euros.
Voilà, donc tu as déjà la moitié de ton loyer qui... Et là tu as tous les provinciaux qui font... Oui, bon, ça va, on est au courant.
Ah non, puis en plus, alors, pour le coup, Paris, c'est vraiment ma ville, donc ça, j'ai aucun problème avec l'idée de payer mon loyer. Je suis beaucoup plus attentive à l'investissement dans le temps long. De fait, j'achète beaucoup moins de choses, mais à l'époque, j'étais alors la reine de Vestiaire Collective aux prémices de la boîte, il y a 10 ans. Vestiaire Collective, qui est donc une plateforme de luxe de revente entre particuliers de vêtements, d'accessoires, etc. Donc clairement, je chopais davantage, j'achetais davantage principalement des vêtements, et je revendais beaucoup. Je voyageais aussi beaucoup plus. Alors, entre-temps, le Covid est passé par là, donc aujourd'hui, je saurais pas trop te dire, mais si j'ai repensé ma consommation, donc à la fois dans le temps long, en ce qui concerne les objets, mais paradoxalement, je suis capable de mettre bien plus d'argent dans un objet en sachant que
je m'engage à passer X années de ma vie avec, ou alors que je pense que c'est un investissement intéressant pour le revendre un peu plus tard. Ça peut être le cas, par exemple, pour une œuvre d'art ou pour...
T'achètes de l'art en te disant potentiellement, tiens, je pourrais le revendre plus tard. Ouais, c'est intéressant.
Ça dépend vraiment quoi. Okay. J'achète jamais... alors déjà, j'achète pas tous les matins, hein, soyons clairs. J'achète jamais quand il y a un coup de cœur et un investissement émotionnel de ma part, au sens où je me dis toujours, un peu comme, tu vois, on parlait de la bourse, mais clairement, si demain ça vaut zéro, tant pis. Enfin, j'aurais kiffé chaque minute de chaque jour à passer à côté de cet objet qui m'aura nourri. Et par contre, dans certains cas, effectivement, j'ignore pas la possibilité que ça prenne de la valeur. Mais ça rentre pas en ligne de compte dans la décision d'achat.
Oui, t'es pas investisseuse, quoi.
Non.
Tu vois ce que
je veux dire ? Enfin, je le suis au sens où j'aime investir dans les artistes pour les porter et leur donner de la force, mais pas pour avoir un backward, quoi. Voilà. Tu m'as posé une autre question. Oui, et dans ce que je te disais par rapport à mon investissement dans les voyages, ça a changé aussi. C'est hyper intéressant, mais ça va avec l'évolution de ma conscience écologique. J'ai appris à développer la micro-aventure, quoi, tu vois, et puis à faire vachement plus attention à la manière dont je me déplace et à chérir et redécouvrir tout ce qu'il y avait autour de moi et à changer ma manière de voyager. J'ai jamais été dans la culture de l'hôtel X étoiles, etc. J'étais vraiment plutôt une baroudeuse. En revanche, prendre un billet d'avion à 3000 balles et puis partir faire faire 5 jours de plongée dans un endroit de ouf et mettre vraiment un gros ticket dessus. Bon, c'est des choses clairement aujourd'hui que à l'instant T, je peux pas me permettre.
Et est-ce que tu le referais aussi par rapport à, parce que bon, on a parlé très rapidement, mais ta boîte est avant tout un média pour parler de durabilité, d'environnement aussi. Donc j'imagine que ça doit te mettre ça te fait des inceptions aussi, tu vois.
Oui, et d'ailleurs, c'est une quête assez géniale et ça participe à ma sensation d'alignement. En fait, aujourd'hui, je sais que, notamment suite aux conclusions du GIEC, tu vois, on est censé être à l'enseigne de un long courrier par an et par personne, grand max. Donc déjà, tout ce qui est moyen et petit, enfin, et vol court, ça n'existe plus dans ma vie, mais ça, depuis au moins 3 ans, c'est hyper ponctuel. Ça m'est arrivé d'aller en Corse l'année dernière une fois en avion, mais sinon, je prends le train. Je suis partie en Espagne cet été en train, en Allemagne, en Angleterre, dans plein d'endroits différents. Et du coup, je conçois le voyage d'une autre façon, en fait, dans le temps long. Et ça a changé, et je pense que ça va rester. Si demain, je devais partir, par exemple, je rêve du Japon. Si demain, je devais y aller, clairement, j'ai déjà pris le transsibérien pour aller jusqu'à Vladivostok. Bon, bah, je pourrais le refaire en prenant le bateau pour aller, tu vois, là, le coup d'après, jusqu'à Tokyo. Pareil, New York, j'y ai passé un mois et quelques il y a 4 ans. Je rêve d'y retourner. Par contre, un trip en cargo, en me disant, bah vas-y, je prends 3 semaines et j'y vais en cargo, j'écris un bouquin ou je ne sais quoi, tu vois, où je me fais la lecture de X poèmes de Hugo. Durant ce trajet, j'essaye de me mettre dans un espèce d'état créatif, quel qu'il soit, ça m'éclate, quoi. Et j'ai vraiment envie de ça. Et alors, après, il faut avoir le luxe, qui est
du temps.
Le luxe temporel de le faire, mais je pense que c'est un luxe que je prends, enfin, qui se prend. Et ça, c'est quelque chose que, justement, l'entreprise, aujourd'hui, peut me permettre. Alors, pas demain et pas tous les matins. Mais si je disais à mon frère, bah voilà, j'ai envie de me prendre 3 mois l'année prochaine, est-ce qu'on peut s'organiser pour ? Bah, je vois pas pourquoi est-ce qu'on le ferait pas, de la même manière qu'aujourd'hui, on se casse 10 jours par mois à télétravailler dans un endroit qui nous fait kiffer, chose que j'aurais pas pu faire, tu vois, dans mon précédent métier. Et c'est génial, et c'est comme ça que j'ai envie de me construire, et que c'est comme ça que j'ai envie d'explorer le monde, les voyages et mon rapport au temps, aux choses, à l'autre, à différentes cultures par la suite.
Est-ce que tu es en train de dire que tu as échangé, entre guillemets, de l'argent cash contre moins d'argent, mais du temps et une forme de liberté, alors avec des contraintes qui vont avec aussi de responsabilité, qu'on en parlait tout à l'heure, de payer les salariés et tout, quoi. C'est ça ton move ?
Complètement. Et c'est surtout une manière de concevoir l'existence. En fait, je pense que avant, j'avais la sensation que, tu vois, les études étaient te permettaient en partie de kiffer. Ensuite, je prendrais éventuellement une année sabbatique pour faire un tour du monde, comme font beaucoup de gens, avant de te mettre dans une espèce de schéma hyper routinier, un peu sacerdotal, qui prend fin à l'âge de la retraite, quoi. Enfin, grosso modo, c'est schématique, mais c'est un petit peu comme ça que les choses étaient mises en perspective, avec des espèces de moments de kiff qui étaient aussi des moments de démonstration de à quel point t'as kiffé, que ce soit sur les réseaux ou autre, mais sans vraiment quête de fond. Et avec cette notion d'épanouissement par le travail qui était quasiment inexistante. En tout cas, encore une fois, c'était dans ma représentation des choses, quoi. Et je le disais bien, alors moi c'était pas la retraite, mais c'était les fameux 40 ans, où je pensais comme une fleur du jour au lendemain me dire, bah ça y est, là j'ai atteint le point où je suis sécurisée financièrement et où je vais pouvoir mettre de l'argent dans une galerie d'art.
C'était une projection que t'avais ?
C'était complètement une projection, mais vraiment quoi. Et en attendant, je m'imaginais pieds et poings liés en me disant, bon bah, et même en remplacement, hein, enfin c'est-à-dire que on pourrait dire, mais finalement, pourquoi est-ce que elle a pas continué dans la lancée de faire des remplats à raison de 2 jours par semaine? J'aurais pu gagner 4000 balles par semaine ou, allez quoi, 2000 euros par semaine. Donc si tu ramènes tout ça, post-impôt, etc., 1000-1500 euros par semaine en travaillant 8 jours par mois. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui seraient OK pour faire ça. Mais en fait, j'avais la sensation d'aller au bagne, quoi, tu vois. Enfin, je me sentais vraiment pas épanouie. Et donc, c'est un choix que j'ai dû faire. Mais aujourd'hui, je ne regrette pour rien au monde. Mais pour te dire, c'est vraiment un mindset qui a complètement changé. Et aujourd'hui, je sais que cet état d'esprit de kiff à travers le travail, qui d'ailleurs est très poreux, hein. Enfin, je veux dire, mon travail, je pense que c'est un peu comme toi, entre profession et temps libre et hobby, c'est vaste communicant, mais c'est, okay, c'est choisi, oui. Tu vois. Et c'est comme ça que j'envisage l'existence. Et d'ailleurs, c'est drôle, un des conseillers en patrimoine avec qui j'ai discuté m'a dit, bon alors, toi Victoire, c'est quoi ton... Si tu devais schématiquement dire combien il te faudrait pour être heureuse dans la vie, combien t'aimerais gagner d'argent si t'étais vraiment au top du max, et combien, quel serait le minimum et puis à quel âge tu voudrais arrêter de travailler. Et je lui disais, mais je me souhaite à 80 piges d'être encore à donf dans des projets, tu vois, d'écriture artistique, de mécénat, inchallah, tu vois, si j'ai gagné plein d'argent et que à tel point que... Enfin, moi, mon rêve ultime, c'est d'ouvrir une résidence d'artiste, en fait. C'est d'avoir une giga baraque secondaire dans laquelle des gens qui ont pas de thunes et qui ont envie de créer des choses viennent et soient accueillis et n'aient autre chose à rien d'autre à penser, tu vois, que de créer, quoi. Et c'était, ça me paraissait absurde comme question. Donc c'est vraiment un état d'esprit qui est très particulier, mais qui est le mien aujourd'hui.
Comment t'as fait aussi pour te mettre dans cette transition de ça y est, maintenant je suis entrepreneuse, il faut que cette boîte gagne de l'argent, parce que faut vous payer déjà de base, faut payer les gens, faut payer le fonctionnement. Est-ce que t'as réussi assez facilement à te dire que il fallait que cette boîte gagne de l'argent, et donc même si c'était du kiff pour toi, de réussir à gagner des sous et à demander de l'argent en échange?
Non, ça a été très compliqué au début. Et mon coaching a été en partie pour ça, pour assumer la dimension business, finalement, de cette vie-là. Parce que y a plusieurs choses, mais déjà, on a un métier... Donc on a un média et une agence de communication sur la mode responsable, la transition écologique et sociale des entreprises. Donc il y a une espèce de bien fondé au départ et une volonté de prévenir, si tu veux, les scandales tels que l'exploitation des Ouïghours, l'augmentation des maladies liées aux traitements toxiques qui sont...
Des fringues,
au sein de, voilà, au sein des chaînes de production de nos vêtements, etc. Et donc... Finalement, c'est un peu une extension de la médecine pour moi. Au début, c'était, j'avais la sensation de toucher davantage de gens et d'être un peu en amont, c'est-à-dire que on venait pas à moi malade, mais il y avait potentiellement des tuiles qui allaient arriver et que c'était cool si on répandait des messages qui permettaient de les prévenir. Donc,
sachant que en médecine, tu es habitué à ne pas compter ton temps, à distribuer ton savoir littéralement, enfin sans attendre, ne serait-ce que, enfin une gratification, un remerciement, tu vois, c'est quelque chose de normal. Je trouvais ça méga ouf au début de The Good Good, ce qu'on me paye pour mon jus de cerveau, quoi. C'est-à-dire que je me disais, mais comment ça? Enfin, oui, j'ai des idées, oui, je sais écrire, oui, je sais faire une veille bibliographique et digérer des infos pour vous les apporter sur un plateau, mais à quel moment vous allez me payer pour ça? Et en fait, je ne comprenais pas. Et surtout, j'avais toujours envie de plus parce que pour moi, c'était tellement épanouissant que quand un client venait nous voir en disant, ben voilà, on aimerait faire un plan de com, on a tel type d'enveloppe budgétaire, je disais, mais attends, mais on peut faire ci, ça et ça, et je connais un tel et machin, et on pourrait faire trois fois plus sur les réseaux et créativement parlant, et ça me mettait égal de compter les heures et les moyens. Et donc, ça,
trois
ça
fois
a été...
plus pour le même argent.
Exactement. Exactement. Et comme in fine, en plus, l'objet de notre travail est quand même assez bienveillant et cool. Enfin, pour moi, c'était comme compter la quantité de bonheur, que c'était comme être avare en bonheur ou en bienfait, tu vois. C'était absurde. Et en fait, j'ai appris que c'était crédibilisant de se faire payer, parce que voilà, ça tu mettais vraiment, vu que l'argent est le métrix commun qui détermine ta valeur et la valeur de ton travail, c'est le langage, si tu veux, intermédiaire entre les êtres humains, je l'ai appris, en fait, j'ai appris à le comprendre et je me suis formée pour apprendre, encore une fois, les codes du business, alors aussi dans une sphère assez... comment dire, assez masculine, hein, souvent, dans la négociation, etc. J'ai vachement appris de mon frère. J'ai appris en l'observant, et puis j'ai appris en faisant.
Et donc, tu es devenue entrepreneuse, en fait. Et c'est marrant de voir ton parcours depuis la fac de médecine jusqu'à aujourd'hui, et de te dire qu'en fait, en attendant, t'as appris aussi, notamment, à gérer l'argent et à gérer l'argent d'une boîte, quoi. Et à te faire payer.
Et à me faire payer et à me payer moi-même,
oui.
Tout simplement. Ouais. Il y a une conférence de Idrissa Barkhane dans laquelle il disait « If you're good at something, never do it for free ». C'est une citation qui n'est pas de lui, mais il parlait de ça parce qu'il parlait des cryptos. Et,
Donc si vous êtes bon, ne le faites jamais gratuitement.
Ouais, c'est ça.
Si vous êtes bon dans un truc.
Si vous êtes bon à quelque chose, ne le faites jamais gratuitement. Et ça m'a vraiment ça m'a ébranlé le cerveau, quoi. Je me suis dit, mais tiens, effectivement, je peux passer mon temps à donner mes contacts, mon savoir, mais en fait, le jour où j'ai envie d'en vivre et de faire grandir ma boîte et rayonner mon activité, il va falloir à un moment donné que je mette un chiffre dessus, quoi.
Tu parlais au tout début de la conversation d'avoir créé un portefeuille.
Ouais.
Et que tu étais devenue une pro de l'investissement financier.
Non, ça c'est ton interprétation.
Moi je sais pas.
Tu vois les croyances autour de l'argent. C'est marrant parce que je pourrais avoir 2000 balles à investir et le répartir en X%. Ça fait de moi un investisseur pro déplacement, quoi.
Mais tu sais que moi j'ai vendu Mademoiselle, j'ai gagné un peu de sous et je suis allé voir une professionnelle en fait qui m'a expliqué comment faire et qui m'a dit bon voilà, on voudrait mettre ça, c'est de ça notre coup. J'ai fait let's go, c'est vous les pros, vous savez quoi. En fait, rien que ça, déjà, ça fait toi, j'ai l'impression, un professionnel de l'investissement.
Ça dépend.
D'être capable de t'entourer.
Quel degré tu t'investis, à quel degré de connaissance t'as des différents endroits dans lesquels t'investis. Parce que tu peux très bien lui dire, assurance vie, go, je mets X tous les mois. Ou bien aller un peu diguer sur le niveau de risque, sur quel type d'entreprise aussi tu veux alimenter. Ouais. Et ça devient plus complexe.
Vas-y, explique.
Écoute, ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi grâce à ma profession actuelle et grâce à mon podcast. On a un podcast qui s'appelle Onward Fashion, qui est le podcast des solutions business pour une mode durable, qui est adressé aux professionnels de la mode.
Je vous mettrai un lien dans les notes, hein, si ça vous intéresse d'aller découvrir.
Écoute, en tout cas, on a fait deux épisodes sur la question de comment financer sa boîte quand on est une boîte à impact. Comment ne pas être dépendant d'investisseurs qui vont envoyer péter toutes tes bonnes intentions à coup de KPIs vénères sur des périodes courtes avec des taux de rentabilité exigés qui sont forts.
Alors, une boîte à impact, pour expliquer, mais c'est une boîte à impact social
ou environnemental. C'est ça. En gros, c'est une entreprise qui cherche à
faire le bien.
À faire le bien.
Rendre le monde un peu moins nul.
Et quand ces entreprises-là ont des besoins financiers, et ben quand tu vas lever des fonds, typiquement si tu vas vers un fonds traditionnel, malheureusement, t'as pas d'autre choix que de devenir une entreprise dont le but est de générer le plus de cash possible le plus vite possible. Et donc tu perds un peu tes principes éthiques généralement à ce moment-là. Et donc je me suis intéressée à cette question dans le cadre du podcast. J'ai notamment eu la chance d'interviewer Eva Sadoun, qui est la fondatrice de Lita. Donc Lita, qui est une plateforme d'investissement décentralisé en fait, en direct. Donc tes 100 balles ou 100 000 balles, tu peux les mettre sur une entreprise qui a été présélectionnée pour ses engagements. Et donc évidemment, tu as une rentabilité qui est un peu inférieure à celle d'une entreprise classique, mais c'est quand même tout à fait cool, en actions, en obligations. Voilà, ça dépend vraiment des projets. Donc déjà, rien que ça, en fait, enfin, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais tiens, si moi j'ai un peu des thunes à mettre, que le niveau de risque est équivalent, que j'ai pas forcément envie de flouder Apple ou Coca ou Total, comment je fais? Parce que clairement, quand tu files tes thunes à ta banque, même si certains fonds sont étiquetés ISR, donc investissement responsable, et ESG, donc environnement, social et gouvernance, tu sais pas exactement où ça va. Et je le sais, puisque donc le deuxième podcast a été fait avec un fonds qui appartient au groupe Aviva et qui s'appelle Alliance for Impact, donc qui est plutôt de cet acabit. Bref, toujours est-il que... je sais plus ce que tu me posais comme question, mais t'es devenue la pro du patrimoine. Non, pas exactement, mais en tout cas, je me suis vraiment intéressée à ça, puisque j'ai cherché à mettre un certain pourcentage de mon portefeuille dans des startups qui avaient besoin de fonds, et que, de fait, j'en ai discuté et je me suis intéressée à ça pour ça. Et ça fait partie des choses dans lesquelles j'ai investi, ouais.
T'as acheté des bitcoins ?
Alors, j'ai aussi investi un peu dans les cryptos.
Ouais.
À vrai dire, je suis venue aux cryptos par la question des NFT. Moi, j'ai vraiment fait le chemin à rebousse-poil, quoi. Je suis partie d'abord de l'art, des NFT dans l'art. Je pense
faut que t'expliques un peu ce que c'est ouais. Très rapidement, parce que c'est.
Alors, les NFT, ce sont donc des non-fungible tokens. Donc, ce sont, en gros, c'est une forme de crypto-monnaie quelque part. Donc, alors attends, on va reprendre à la racine. La crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée, une monnaie qui est virtuelle, qui est certifié par la blockchain, donc c'est une monnaie qui est créée sur un système qui est crypté, et donc ce système, une crypto-monnaie est équivalente à une autre, c'est-à-dire que il y a un rapport de proportion, un bitcoin va valoir X Ether qui va valoir X Sol par exemple, mais on peut échanger X Ether contre un bitcoin ou X Sol, c'est exactement la même chose, ce sont des tokens fongibles, donc ils sont échangeables. Les NFT, ils sont non échangeables. Pourquoi ? Parce que ce sont des tokens qui ont une identité propre, donc ça peut être un acte notarié, par exemple un avatar dans un jeu vidéo,
ouais.
Un filtre a une identité, il n'est pas échangeable contre un autre filtre. Ça peut être aussi un morceau de terrain virtuel ou une œuvre d'art. Et donc dans les œuvres d'art, il y a vraiment des créations digitales, n'importe quoi, du GIF à ce qu'on veut, et également ce qu'on appelle les digital twins, donc qui sont les passeports digitaux des œuvres d'art plastiques qui existent dans la vraie vie. Bref, je m'intéressais aux NFT. Je n'ai pas investi dans les NFT parce que l'art digital ne m'intéresse pas trop. En revanche, du coup, je me suis intéressée aux cryptos.
Alors, je voulais juste te dire, je vais faire un épisode spécial sur les cryptos parce que je crois que c'est un
trop
vrai truc
bien.
Ce podcast. Ça viendra.
Je serai la première à l'écouter. Et donc voilà, je trouve ça assez... en fait, c'était plus par appétence intellectuelle. Déjà parce que la blockchain, c'est un sujet qui, il y a 4 ou 5 ans, m'a passionnée, dans lequel je m'étais plongée à fond. Jusqu'ici, les cryptos, je m'étais pas intéressée. Et là, j'ai trouvé ça assez cool de me dire, je peux prendre le risque de mettre 3% de l'argent que j'ai à investir, 5% de l'argent que j'ai à investir là-dedans. On verra bien, il y a un côté un peu intuitif, il y a un côté gaming aussi qui est assez cool. Et puis surtout, ce qui est chouette, c'est que j'ai eu la sensation en m'intéressant à ça d'apprendre une langue étrangère et d'ouvrir une case de mon cerveau dont j'ignorais l'existence. Et je trouve ça assez chouette de pouvoir parler ce langage, parce que c'est un langage, parce que voilà, c'est aussi des nouvelles personnes, c'est une manière de rester dans une forme d'apprentissage,
Et je crois que, enfin, ma passion dans la vie, c'est d'apprendre des trucs, quoi. Donc, mon moteur dans l'existence. Donc, voilà. Effectivement, j'ai investi un petit peu dans les cryptos.
Bravo. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, non, sur lesquelles?
Écoute, non, la façon dont j'ai réparti mon patrimoine, les valeurs refuges aussi. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être de l'or ou de l'argent. Là aussi, il y a des manières plus ou moins éthiques de le faire. En fonction de comment cet or ou cet argent est exploité, et puis le patrimoine immobilier, pour ça il faut avoir un certain capital.
Oui.
Je pense que en fait la conclusion de tout ça, c'est que il faut investir dans les choses que tu comprends déjà, premièrement, deuxièmement, qui font sens, à savoir vraiment s'interroger sur qu'est-ce que va financer ton argent. Et aujourd'hui, quand on a 100 euros d'épargne à mettre ou 50 euros d'épargne par mois sur un compte, cet argent est une forme de pouvoir donner à quelqu'un ou à quelque entreprise. Et ça, faut en avoir conscience. Je recommande aux gens qui nous écoutent de télécharger l'appli qui s'appelle Rift, qui a été créée aussi par Eva Sadoun, qui est une appli qui dit en fait littéralement qu'est-ce que finance quelle banque en fonction de là où sommeille sa thune, quoi. Et puis je sais pas, considérer quand même que je finirais peut-être sur cette notion du kiff, quoi, que c'est très cool de vouloir spéculer et gagner toujours plus, mais enfin t'es pas moins mort enterré dans un cercueil Gucci, n'est-ce pas? Je quote Kerry James pour le mot de la fin.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Qu'est-ce que ça t'a fait de parler d'argent dans un micro comme ça?
Je pense que finalement, c'est comme n'importe quelle peur. Il y a beaucoup de représentations et beaucoup de croyances. Et en faisant... on les détruit, et ça m'a paru beaucoup plus simple comme exercice et beaucoup moins tabou que ce que je ne pensais. Donc j'ai aucune idée de... C'était un peu analytique, en fait. J'ai aucune idée de si c'était intéressant ou pas.
Mais de ouf, c'était intéressant.
Et si ça va pouvoir
aider
tes auditeurices. Mais en tout cas, je pense que c'est assez cathartique et que ça va faire du bien, ce podcast.
Je crois,
merci,
j'espère.
Fab.
Merci beaucoup. Est-ce que tu vas aller voir ton père?
Écoute, je vais certainement lui envoyer, en tout cas.
Merci, c'était cool.
Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez une histoire ou un rapport particulier à l'argent et que vous pensez que vous avez des choses à raconter à mon micro par rapport à l'argent, justement, envoyez-moi un mail sur argent@fabflorent.com. Donc c'est argent@fabflorent.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message vocal en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou en enregistrant une note vocale sur votre téléphone que vous m'envoyez par mail sur vocal@fabflorent.com, fabflorent.com. Si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de me taguer sur @fabflorent histoire que je puisse vous voir. Un grand merci encore pour votre fidélité et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com, code PROGRAM.